Donc, en 1983, l'année juste avant le lancement public sur tout le territoire métropolitain, les décideurs mettaient en chantier une version corrigée.
Exactement. La norme du Minitel 1B, alias TUM 1B, fut très vite mise en travaux. Les réunions commencèrent dans l'euphorie du lancement et les copies corrigées envoyées quelques mois plus tard chez les fabricants. Radio Technique, Matra, Alcatel, Thomson, Philips Télic, Dassault et Renault.
Renault ? Des Minitel ?
Oui, les Renault Espace série spéciale Radiocom 2000 plus Minitel. Bon, il n'y en a eu que 10 de vendus, elles ont toutes été très vite accidentées car utiliser le télépéage par Minitel était très périlleux à 130 km/h. Bon, j'en reviens à cette version corrigée sortie en 1985. Prenons le plus visible, clavier. Notamment la présence de la touche Shift en haut à droite se montrait trop peu pratique et incongrue sur les premiers modèles. Il fut décidé de suivre la disposition des machines à écrire et de la mettre de chaque côté de la touche d'espace. De même furent ajoutées des touches issues de l'informatique, comme les flèches dans les quatre directions orthogonales. La touche échappe, la touche contrôle, une vraie touche entrée et même une touche fonction que l'on pourrait comparer à Alt, même si ces touches étaient absolument pas utilisées par le grand public, car elles n'étaient absolument pas gérées par les services existants. Elles permettaient de rendre le terminal plus proche des ordinateurs, donc plus sexy pour les cadres supérieurs et les acheteurs étrangers.
Ça devait être un peu compliqué à expliquer à un non-francophone. Les touches du Minitel 1 qui étaient marquées en français et sans aucun symbole visuel.
Et oui. D'ailleurs, vous remarquerez que toutes ces nouvelles touches du 1B sont sérigraphiées en anglais. ESC pour Escape et non échappement. CTRL et FNCT maintiennent l'ambiguïté en ne mettant pas les voyelles sous prétexte du manque de place pour la sérigraphie. La commission de terminologie et de néologie chargée de la francisation à marche forcée des mots informatiques s'en est étranglée devant le fait accompli d'ailleurs. Mais bon, trop tard pour eux d'y mettre leur touche à cette French Touch.
Ces ajouts de touches, c'était donc du décor, juste pour la parade.
Alors détrompez-vous, elles permettaient d'avoir accès à des fonctions réellement avancées que je vais vous dévoiler. Prenez des notes et munissez-vous des codes STUM 1B, ils vont vous servir. Prenons ce Minitel de génération 1B ou ultérieure. On note que les nouvelles touches sont surtout des touches modifiantes plus que fonctionnelles. Et pourtant, regardez cette touche. La touche FNCT permettait d'activer les modes avancés, comme la combinaison de fonctions M puis R qui renversait le modem, le passant en 75 par 1200, on le voit au F minuscule en haut à droite. Ou nettement plus rusé, la combinaison fonction C puis E, suivie d'un contrôle Q, qui faisait apparaître un curseur en mode déconnecté, et de là, l'utilisateur très avancé avait accès à l'ensemble des fonctions de composition graphique, avec la touche échappe ou contrôle, qu'il pouvait enregistrer s'il avait branché un ordinateur sur la prise série derrière. Des générations d'infographistes se sont lancées grâce à ce mode d'édition quand ils connaissaient les combinaisons de touches à base de échappe, puis lettres de la norme STUM. Mais ce mode restait une ardoise magique en mode hors connexion, car très peu géré par les services kiosques.
Faut aimer faire du graphisme comme ça.
Et oui, c'est un art qui se perd, hélas. Essayez le mode semi-graphique avec CTRL-N, il va vous occuper de longues soirées. Un autre mode qui avait un usage tout aussi puissant et beaucoup plus utile pour les professionnels était le mode en 80 colonnes d'émulation du terminal VT52 avec les combinaisons fonction T puis A ou fonction T puis F. Le VT52 est un terminal très répandu du constructeur américain DEC. A voulait dire qu'on le vous souhaitait configurer en mode américain ASCII. Le mode F était pour les lettres accentuées françaises et le symbole livre sterling anglais. Évidemment, le fabricant original ne connaissait pas le STUM, donc ce mode émulé ne comprend que les codes d'échappement du standard américain ANSI, qui sont bien moins concises que celles de nos STUM nationales. Ce mode en 80 colonnes permettait de dialoguer à de puissants serveurs Unix comme ceux des Américains ou de notre fabricant souverain Bull. On parle d'informatique industrielle. Il y avait donc une volonté d'ouverture apparente de la technosphère française vers les entreprises internationales. Mais entre nous, je reste persuadé qu'il y a eu une vraie tentative de couper l'herbe sous le pied des fabricants de terminaux, comme DEC, Brooks, Wise et d'autres. Si on ne pouvait concurrencer IBM sur les superordinateurs, on espérait bien leur faucher une partie du marché des terminaux. D'où le nom du Minitel 1B. B pour bistandard, une concession officielle qu'il fallait aussi compter sur l'industrie informatique américaine, en plus de la française.
Ah, d'accord. Ah oui. Soit l'informatique souveraine faisait une concession, soit il apprenait à mûrir.
Oui, plus précisément, 40 colonnes pour un tableur, c'était vraiment très étroit. Autre chose, si le Minitel était un terminal, je vous avais bien dit que l'intérieur était en fait un vrai micro-ordinateur. On trouvait même une prise interne pour une carte d'extension.
Le Minitel 1B était donc une évolution purement technologique ?
Non, il fallait aussi accorder le Minitel à la mode de la consommation, voire aux attentes des utilisateurs haut de gamme, les CSP+, dans l'idée de non plus leur louer gratuitement les terminaux, mais de le leur vendre au prix fort, nantis de fonctionnalités avancées. Il est vrai que les premiers Minitel de série avaient une teinte grisée, des écrans très ronds, inclinés à 45 degrés, ce qui donnait une mine triste tout nette. Bon, bah après des recherches avec des formes très fantaisistes, la forme monobloc revue partait d'un cube plus franc mais néanmoins légèrement arrondi sur les angles, dont une des faces serait l'écran. L'arrière du cube est biseauté, la face du dessus creusée pour servir de poignée, ce qui le rendait aussi transportable qu'un combiné téléphonique, et pour y insérer des accessoires. Cette forme avait un design assez génial, reconnaissez-le. D'ailleurs, la société américaine Apple s'en inspira ouvertement pour son premier Macintosh, un détail flagrant qui ne laisse aucun doute quand on sait le nombre de Français qui travaillaient à l'époque dans la Silicon Valley, avec moins de génie car Apple n'a pas réussi à incorporer le clavier et la souris dans le bloc. La couleur et la robe du Minitel de référence fut changée en marron-beige allemand pour la génération 1B, bien plus chaleureuse. Une couleur très tendance, très chébrant à cette époque. Les grandes voitures familiales américaines avaient des décalcomanies en imitation bois sur leur carrosserie. Les téléviseurs avaient un boîtier sérigraphié, là aussi, dans une imitation bois.